Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé vous retrouve à Lyon à l'occasion de la conférence de reconstitution du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. À l'issue de ce rendez-vous international, celles et ceux qui chaque jour luttent contre ces trois épidémies sauront sur quelles ressources ils peuvent compter pour les années qui viennent. Budget, programmes et projets qui ont des traductions concrètes pour celles et ceux qui soignent et informent les populations concernées par ces grandes infections, comme nous l'avons entendu hier en recevant les acteurs de terrain au micro de Priorité Santé. Aujourd'hui, pour comprendre les enjeux et mieux cerner les défis, nous allons partir sur trois continents à la rencontre de tous ceux qui sont au cœur de ces stratégies pour mettre en œuvre des réponses adaptées. Prévention du paludisme à la frontière thaïlandaise, défi de la tuberculose résistante en Inde, au Burundi, prise en charge des enfants nés avec le sida, ne laisser personne exclu des soins et de la sensibilisation, population cible au Sénégal et en Côte d'Ivoire, à la rencontre des acteurs de la santé dans leur diversité. Et nous commençons cette émission avec l'une des maladies dont on parle peut-être un peu moins, qui est généralement passée sous silence. Il s'agit de la tuberculose. Pourtant, c'est bien la plus meurtrière des infections devant le sida. 10 millions de personnes sont infectées chaque année sur la planète et 1 600 000 en meurent. Pays particulièrement concerné par ce fléau, eh bien c'est l'Inde. Il compte à lui seul un quart des cas de tuberculose dans le monde et un grand nombre de ces cas sont devenus résistants aux antibiotiques traditionnels. Heureusement, de nouveaux médicaments viennent de voir le jour et les associations se battent pour que les patients puissent y avoir accès. Reportage de Sébastien Farcy sur cette tuberculose résistante aux antibiotiques.
Sunny est assise sur le pas de la porte de son minuscule appartement familial qui est situé dans le bidonville de Narela, au nord de New Delhi. Des bidons d'eau sont alignés devant lui et le linge pend en plein milieu de la rue. Ce jeune garçon de 20 ans est épuisé car cela fait 2 ans qu'il se bat contre la tuberculose.
En juillet 2017, j'ai commencé un traitement, mais il était trop fort. J'ai vomi et suis tombé inconscient 2 fois pendant la première semaine. J'ai donc arrêté les médicaments.
Sunny n'était alors pas guéri, mais il est devenu résistant aux antibiotiques. 6 mois après, on lui a donc donné d'autres médicaments encore plus forts, et ceci pendant 1 an.
C'était difficile, il y avait 7 différentes pilules par jour. Je viens de terminer le traitement en août, mais je suis encore très faible. Je ne peux pas courir car je m'essouffle très rapidement et je n'ai pas pu terminer le lycée non plus.
Le traitement de la tuberculose est long et compliqué et les médecins doivent donc suivre de près les patients pour s'assurer qu'ils prennent ces médicaments régulièrement et qu'ils les tolèrent. Or, dans les quartiers pauvres, les hôpitaux publics sont débordés et n'ont donc souvent pas la capacité de le faire. Les patients comme Sunny abandonnent donc le traitement et deviennent résistants à ces antibiotiques. Cette forme de tuberculose résistante est également contagieuse et elle touche maintenant les habitants de la classe moyenne comme cette jeune journaliste de Bombay.
Je m'appelle Nandita Venkateshan et j'ai survécu à 2 tuberculoses aux intestins à 8 ans d'intervalle. J'ai attrapé la première tuberculose à l'âge de 17 ans. J'ai suivi un traitement pendant 18 mois et j'ai été déclarée soignée. Mais la maladie est revenue et elle est devenue incontrôlable. Pour guérir, j'ai dû subir 6 opérations chirurgicales. J'ai aussi perdu une partie de mon audition à cause des injections de canamycine. C'est un vieux médicament très nocif qui entraîne beaucoup d'effets secondaires. Si je vous parle aujourd'hui, c'est grâce à un appareil auditif.
L'Organisation mondiale de la santé estime que 135 000 Indiens ont développé cette forme de tuberculose multirésistante en 2017. Seulement la moitié ont été identifiés et ont pu être traités. Et même parmi ceux traités, à peine 1 sur 2 a pu être guéri. Cela fait donc plus de 30 000 personnes condamnées chaque année à mourir à petit feu de cette tuberculose très agressive. Mais il y a un nouvel espoir pour eux, car pour la première fois depuis 50 ans, deux nouveaux médicaments ont été inventés pour traiter cette tuberculose multirésistante, le bédaquiline et le délamanide. Les malades, toutefois, ont du mal à obtenir ces médicaments car ils sont chers et rares. Le gouvernement n'en a pas acheté, mais a reçu 22 000 traitements de bédaquiline en 3 ans sous forme de donations. Il les prescrit maintenant avec beaucoup de précautions pour s'assurer qu'ils sont bien tolérés et pour éviter les abus. Cette modération est condamnée par les militants comme Ganesh Acharya, un malade du sida qui a réussi à guérir de la tuberculose.
Le gouvernement choisit les patients qui peuvent en recevoir et cela retarde les traitements. L'OMS a classé le bédaquiline en catégorie 1, ce qui veut dire qu'il est très efficace. Donc, les 150 000 patients multirésistants doivent y avoir accès. Mais ce n'est pas possible, car le gouvernement n'a pas dépensé $1 pour du bédaquiline. Il dépend de dons. À présent, il doit déclarer l'état d'urgence sanitaire, car ces patients, soit ils meurent, soit ils répandent la maladie. Moi, j'ai peur d'attraper à nouveau la tuberculose. L'Inde est la pharmacie du monde, nous sauvons le monde entier, mais nous ne pouvons pas sauver notre propre population.
Le directeur adjoint du programme national contre la tuberculose nous confie que le gouvernement a l'intention d'acheter 33 000 traitements de 6 mois de bédaquiline, ce qui serait inédit. Cela permettrait de contenir la propagation de cette épidémie de tuberculose multirésistante, mais est-ce que cela serait suffisant pour y mettre fin ? L'association Médecins sans frontières estime que non, car environ 30 000 patients seraient déjà considérés comme extrêmement résistants, ce qui veut dire qu'ils auraient besoin de prendre une combinaison de bédaquiline et de délamanide. Or, le délamanide, produit par le laboratoire japonais Otsuka, est très cher, 1 550 € par patient pour 6 mois de traitement. New Delhi n'a donc pas prévu d'acheter du délamanide, ce que déplore Lina Mengane, responsable régionale de l'accès aux médicaments chez MSF.
Nous avons vu cela avec les médicaments contre le sida. Quand un fournisseur a le monopole d'un médicament, cela fait augmenter son prix et restreint son accès. Donc si Otsuka n'accepte pas de vendre le délamanide à un prix abordable, l'Inde devrait avoir recours à une licence obligatoire. Cela permet à un concurrent indien de produire ce médicament en échange du paiement de droits à Otsuka. Et comme les fabricants indiens sont très bons dans la fabrication, ils vont réduire le coût du médicament.
Le responsable du programme au ministère de la Santé affirme ne pas être opposé à cette production sous licence obligatoire, mais il soutient que cela ne doit être fait qu'en dernier recours.
La riposte à la tuberculose multirésistante en Inde, c'était un reportage de Sébastien Farcy. Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors l'Inde n'est pas le seul pays concerné par ces cas de tuberculose multirésistante.
Non, les pays les plus touchés sont donc l'Inde, la Chine, la Russie, l'Ukraine et le Pakistan avec 60% des cas dans le monde, mais les pays d'Afrique australe comme le Lesotho, le Swaziland ou l'Afrique du Sud sont les pays avec le plus fort taux de tuberculose par habitant, avec 700 cas pour 100 000 habitants, ce qui est considérable.
Alors dans ce contexte, on comprend bien que la recherche de nouveaux traitements et de nouvelles techniques de diagnostic constitue une double priorité, mais un autre effort concerne la prise en charge de la tuberculose bovine et en fait, cela n'avait pas été pris en compte jusqu'en 2017.
Oui, chaque pays a sa propre politique concernant la tuberculose bovine, qui, rappelons-le, se transmet à l'homme, mais il n'y a pas de réelle politique globale, faute de moyens. Et cette absence de politique peut être un frein à l'élimination de la maladie dans de nombreux pays, comme le Nigeria. Siméon Cadmus est vétérinaire en charge du contrôle sanitaire des animaux au Nigeria.
Il y a une grande attention portée à la tuberculose humaine au Nigeria, mais peu ou pas d'attention à la tuberculose bovine, alors même que les enjeux sont énormes en termes de santé publique. Il n'y a aucun programme de suivi des animaux qui viennent des pays voisins et entrent au Nigeria. Et au Nigeria, il n'y a pas de restrictions sur la circulation des animaux. Et d'après les données en notre possession, la propagation de la tuberculose bovine se fait depuis les États voisins de l'Afrique de l'Ouest. Tout le bétail va dans le nord du Nigeria où l'on trouve les Fulani. une ethnie qui vit de l'agropastoralisme. Mais la plupart des Fulani ne sont pas éduqués. Et comme ils ne sont pas éduqués, ils ne connaissent pas les problèmes des maladies zoonotiques, comme la tuberculose bovine. Et pour compléter le tableau de la situation au Nigeria, il faut rappeler que le secteur de la santé publique animale est très pauvre. Le nombre de vétérinaires est très limité, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Donc, quand un animal qui n'a pas été testé et dont nous ignorons le statut se retrouve à l'abattoir afin d'être tué pour la consommation humaine, les risques sont énormes. Le meilleur moyen de contracter une tuberculose bovine au Nigeria, c'est d'aller dans un des nombreux abattoirs. Là, la prévalence de la maladie est de 10% en moyenne. La maladie est présente dans tous les abattoirs. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'une grande quantité de viande se retrouve dans la chaîne alimentaire. Comme les animaux ne sont pas examinés, les gens achètent de la viande contaminée, généralement la langue, les poumons et parfois même les muscles. De plus, les gens boivent beaucoup de lait non pasteurisé. Or, on sait que c'est le principal facteur de contamination des humains. Et à cause de la faiblesse des infrastructures de santé, quand quelqu'un se présente à l'hôpital avec une tuberculose bovine, personne ne sait que c'est la bactérie animale de la maladie parce que les moyens dont nous bénéficions pour effectuer le diagnostic sont faibles et qu'on n'est pas en mesure de déterminer de quel type de tuberculose souffre le patient. Donc, on met les gens sous traitement, mais ce traitement n'est parfois pas le bon, car la bactérie de la tuberculose bovine est résistante à la pyrazinamide, un des médicaments utilisés pour la tuberculose humaine. Du coup, certains patients, pour qui le traitement est inefficace, reçoivent un autre traitement, celui contre la tuberculose multirésistante. Mais cela complique encore plus la situation, car ce traitement est lourd et demande beaucoup d'argent, alors qu'il est inadapté. C'est donc un vrai gaspillage. On fait prendre un traitement lourd, parfois toxique, à des patients pauvres qui dépensent tout ce qu'ils ont pour finalement décéder dans certains cas.
Siméon Cadmus, vétérinaire nigérian que vous aviez interviewé, Igor, en octobre 2017 lors de la 48e conférence mondiale sur la santé respiratoire qui se tenait alors au Mexique. Alors Igor, pour bien comprendre la situation actuelle, il faut remonter un petit peu encore dans le temps et nous arrêter en décembre 2015, 46e conférence mondiale sur la santé respiratoire. Là, ça se passait au Cap en Afrique du Sud. Vous étiez sur place pour RFI et lors de cette conférence, de nombreux objectifs ont été fixés. Déjà, en termes de rhétorique, pour le choix des mots MOTS, on parlait de changement de paradigme, c'était bien la formule consacrée. Il fallait voir plus grand, investir davantage pour faire plus et mieux.
Oui, le partenariat Halte à la tuberculose avait présenté son programme 2016-2020, un programme ambitieux, disait-on à l'époque, avec à la clé un budget de 56 milliards de dollars sur 5 ans, dont 9 milliards consacrés à la recherche pour élaborer de nouveaux traitements et pourquoi pas trouver un vaccin. Grâce à ce financement, on devait également atteindre les 90, à savoir que 90% des malades soient diagnostiqués, que 90% des patients mis sous traitement soient guéris et que 90% des populations clés, c'est-à-dire les toxicomanes, les prisonniers, les migrants et toutes les personnes vulnérables soient détectées. Cette stratégie devait permettre d'arriver à 10 nouveaux cas de tuberculose pour 100 000 habitants en 2020, puis 0 cas en 2035.
Alors est-ce que ce chiffre, est-ce que ce sera le cas, est-ce que ce sera atteint?
Eh bien, à moins d'un sursaut rapide, on sera loin du compte, Caroline.
Est-ce qu'on peut parler d'un échec pour autant?
Eh bien, Michel Kazatchkine, envoyé spécial sur le sida pour l'ONU dans les pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale, apporte une réponse.
Effectivement, si on regarde les indicateurs, on est loin encore de la possibilité d'éliminer. Et dans la plénière que je viens de faire, j'ai dit que nous étions à la fois dans un moment d'opportunité et puis un moment de risque très élevé. L'opportunité, c'est que si l'on regarde quand même les 10, les 30 dernières années, l'incidence de la tuberculose, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas dans le monde, diminue. La mortalité de la tuberculose, dans l'ensemble, a diminué considérablement. Et les interventions que l'on a sont certainement des interventions qui sont extrêmement coût-efficaces maintenant. Mais d'un autre côté, ces succès d'abord sont très inégalement répartis dans le monde. Ensuite, alors même que la tuberculose diminue, on voit grandir et s'accélérer en croissance la survenue de formes résistantes de tuberculose, et c'est ça maintenant la grande menace, la tuberculose multirésistante, en particulier en Afrique, en particulier en Europe de l'Est et en Asie centrale. On voit aussi des populations qu'on appelle les populations clés ou les populations les plus vulnérables qui sont totalement laissés dans la vulnérabilité. Il s'agit des plus pauvres, dans le cas de la tuberculose, et il s'agit, comme dans le cas du sida, des personnes usagères de drogue. Il s'agit aussi de nouvelles populations dont on identifie les risques, comme les migrants. Et donc, ce n'est pas un hasard si cette attention aux populations clés, le slogan « No one left behind », est vraiment
« Donc ne laissons,
laissons personne de côté », est le slogan numéro un des Nations Unies dans le cadre des objectifs du développement durable. Donc, la tuberculose est venue avec un certain nombre de succès, mais c'est une maladie maintenant à très haut risque si on ne s'adresse pas à ces populations vulnérables, si on n'acquiert pas de nouveaux instruments, médicaments et vaccins, et si on ne couvre pas l'énorme gap financier qu'il y a entre les besoins et le financement actuel, qui est très, très, très en dessous de ce qu'il faudrait. Donc il y a une responsabilité mondiale collective à prendre, mais il est temps maintenant, et surtout avec ce que je disais sur le fait que ces grandes maladies sont pour la grande majorité dans les pays à revenus intermédiaires, il est temps que ces pays consacrent des budgets plus importants à la justice sociale et aux investissements dans la santé.
Écoutez Priorité Santé sur RFI et au moment précis où sont annoncés les résultats de la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, nous vous proposons des illustrations de terrain au travers de reportages réalisés dans le monde entier pour comprendre les défis, les programmes actuels dans le cadre de la lutte contre les grandes infections. Alors, après la tuberculose, nous allons nous intéresser à la lutte contre le VIH. Direction le Burundi donc, avec des extraits d'un reportage signé Igor Strauss. On y parle d'accès à la charge virale. Ce reportage avait été diffusé dans l'émission du 18 décembre 2018.
Moi, je m'appelle Wiman Patrick et je suis un jeune séropositif depuis ma naissance, mais je l'ai su en 2002. J'avais 14 ans. Bon, au début, c'était très difficile. Les traitements n'étaient pas gratuits. Et là, la plupart n'avaient pas accès à ce traitement. Et les gens mouraient beaucoup. Et c'est pourquoi, à cette époque, la maladie faisait peur dans l'entourage, juste dans la population. Et c'était effrayant. Et pour moi aussi, quand je l'ai su, je ne voyais que c'est injuste. En fait, je voyais que le monde est injuste envers moi. Par exemple, je venais de perdre un grand frère. Je l'ai assisté pendant presque 3 mois à l'hôpital, sans traitement antirétroviral. Et c'était très effrayant de voir que ça va m'arriver à moi aussi. Et c'est pourquoi, en fait, que je voyais la mort. Là, je priais, je dirais à Dieu, « Dieu, au moins, laisse-moi mourir après avoir regardé le Mondial 2002. » Oui, parce que je suis fan du foot. En fait, c'est l'idée que je me donnais. Je voyais que je vais mourir dans moins d'une année. Mais après avoir approché la NSS, j'ai bénéficié du soutien, que ce soit psychologique et aussi médical. C'est ainsi que j'ai retrouvé des gens qui ont les mêmes problèmes. Et à cette époque, j'ai pris la décision au fond de moi-même que malgré ça, je dois arriver à vivre avec cette maladie.
Est-ce que vous en avez voulu à vos parents?
Exactement. Au début, j'en voulais beaucoup à mes parents Parce que je me disais que comment est-ce que je peux attraper le VIH sans même avoir des rapports sexuels? C'est injuste. En fait, j'en voulais pas à mes parents seulement, mais au monde entier. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai constaté que cette haine, au lieu de m'aider, ça me détruit.
Mais est-ce que vous en avez parlé avec vos parents ou pas?
Bon, malheureusement, non. J'ai perdu ma mère quand j'avais 3 ans. Mon père, je l'ai perdu quand j'avais 10 ans. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion, en fait, de leur parler de cette situation. En fait, le sida a fait des ravages au sein de ma propre famille, même au sein de mon entourage. Oui.
Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Comme un rescapé du sida, du coup ou...
Oui, c'est vrai que le sida a... J'ai une histoire avec le sida, mais actuellement, avec l'évolution de la science, je sens que je peux vivre. J'ai cette envie de vivre comme toute personne. Bien sûr, en suivant le traitement, je peux vivre. J'ai une charge virale indétectable, j'ai une fiancée, et actuellement, on envisage fonder une famille. Et avec juste l'accompagnement médical ou même psychologique, avoir fondé une famille et avoir des enfants.
La prise en charge des enfants nés séropositifs, Igor Strauss, c'est un véritable défi à relever.
Oui, un énorme défi, car il faut les accompagner au niveau médical pour qu'ils prennent régulièrement leur traitement, renforcer l'éducation thérapeutique et les suivre psychologiquement pour surmonter cette épreuve. C'est ce que fait justement l'ANSS, l'Association Nationale de Soutien aux Séropositifs et Malades du Sida à Bujumbura.
Et Igor, hein, cette association, eh bien, c'est l'une des plus importantes pour la prise en charge communautaire du Burundi.
Oui, l'ANSS a débuté ses activités en 1993. Il est aujourd'hui reconnu pour son savoir-faire. Elle suit à peu près 3000 patients à Bujumbura, presque 6000 dans tout le pays, ce qui représente 10% du niveau national. Et c'est dans les locaux de l'ANSS que l'ONG française SIDAction a placé le premier laboratoire pour effectuer la charge virale. Du coup, 70% des charges virales du pays sont réalisées à l'ANSS.
Et ces tests de mesure de la charge virale, eh bien, ils permettent d'analyser l'efficacité du traitement et de l'adapter aux besoins de chaque patient.
Une donnée essentielle pour atteindre le troisième 90 de l'objectif mondial fixé par l'ONU-SIDA du 90-90-90 à l'horizon 2020. Or, pour de nombreux pays, l'accès à ces tests constitue un tel défi en matière d'équipement, de maintenance et de formation des personnels qu'ils tardent à se doter de cette technologie, Caroline.
Et autre point crucial dans la lutte contre le sida, l'accès aux soins des populations clés, les populations les plus stigmatisées. Nous partons après présent à Abidjan avec des extraits d'un reportage diffusé le 16 septembre dernier dans Priorité Santé. Alors pour donner un petit peu de contexte, si la prévalence du VIH est d'environ 3% au sein de la population générale en Côte d'Ivoire, eh bien elle passe à 11% chez les professionnels du sexe et atteint même les 18% chez les homosexuels.
Et alors moi je suis allé dans le quartier Petit Ghetto, c'est à Markori, un lieu de prostitution et de misère. Chaque jour, les membres de l'association ivoirienne Espace Confiance se rendent dans ces quartiers pour faire de la sensibilisation auprès des professionnels du sexe.
Oui, maman, si tu veux assister à la séance, tu peux venir. Mais est-ce qu'on peut avoir au moins quelques moments pour venir assister à la séance?
Je vais essayer.
Viens, venir t'asseoir. Aujourd'hui, on va parler des IST. Hein? Qui a déjà entendu parler des IST?
C'est maladie. Bon, c'est qu'à sûr.
Je vais bien vous expliquer et puis vous allez bien comprendre. Comme ça, si quelqu'un vous demande quelque part là, vous aussi là, vous pouviez parler. Hein? On dit IST, ça veut dire infection sexuellement transmissible. Comment on attrape ça? Comment on attrape les IST? Tu n'as pas mis capote ou bien tu as mal mis capote, capote est cassée. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a ça, qui a donné à l'autre. Hein? Vous avez compris ça, non? Maintenant, comment on fait pour éviter les IST? Tu mets capote. Tu as vu, non? Quand quelqu'un il est dressé, il est arrêté, il est prêt, il veut travailler, il y a petit lot là, ça sort. Petit lot là, il y a maladie dedans. Donc si tu as mis capote, que tu n'as pas bien mis capote, l'eau qui est sortie là, tu as vu que ça va aller dans ton toto. C'est pas ça? Ça va aller dans ton toto. Donc s'il est malade, toi aussi, maladie va te prendre. C'est pas ça? Ça coûte ça. Quand quelqu'un client est venu, il veut travailler avec nous là, On n'a qu'à dire capote forcée. Même s'il dit que beaucoup d'argent, il n'y a pas capote, il n'y a pas travail. Hein? C'est comme ça.
Bonjour.
Bonjour, je suis Dr Anoma, je suis directeur de Espace Confiance.
Espace Confiance, donc une association qui s'occupe en particulier des populations clés. C'est-à-dire qu'elles étaient complètement délaissées ici en Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le VIH?
Je pense que en matière de lutte contre le VIH, quand on se projette dans les années 2000, les populations clés, en tout cas dans leur globalité, n'étaient pas suffisamment prises en compte au niveau de la lutte contre le VIH. Il y avait des actions qui étaient menées pour les travailleuses du sexe, qui avaient donc une certaine visibilité et qui déjà à l'époque avaient des prévalences assez élevées. Et à partir donc de 2004-2005, donc avec l'avènement des fonds PEPFAR, il y a eu donc la nécessité de passer à l'échelle pour les travailleuses du sexe, mais sur la base aussi de ce qui avait été fait plus ou moins dans le cadre de la clinique de confiance, qui avait à partir des années 2004 intégré comme bénéficiaires les personnes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Cette problématique-là également a été prise en compte au niveau national et un peu plus à partir des années 2007, avec une prévalence dans cette population qui était assez élevée. Et l'expérience de la clinique de confiance qui avait commencé donc à offrir des services spécifiques à ces groupes-là a servi pour que cette problématique soit prise en compte dans les différents programmes au niveau national.
Moi, j'ai rencontré beaucoup d'homosexuels. Il y a quand même une crainte d'aller chez un médecin lambda à l'hôpital parce que telle infection sexuellement transmissible trahirait leur secret, à savoir leur pratique sexuelle. Est-ce que ça, c'est encore un vrai souci? Et est-ce que vous constatez au niveau médical encore une certaine discrimination vis-à-vis de ces populations clés? Et là, je parle principalement des homosexuels.
Je pense que c'est une réalité. Les gens sont médecins, c'est vrai, mais malheureusement, ils sont quand même aussi influencés par leur carence, par leur culture, par leur religion, etc. Et donc, il y a ce problème qui est un problème réel. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits pour qu'il y ait des plaidoyers, etc. Mais c'est pas aussi simple parce que la stigmatisation et la discrimination, elle disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est des craintes qui sont des craintes fondées. C'est vraiment la réalité. Mais je pense aussi qu'au niveau national, avec les différents programmes, il y a quand même un certain nombre de structures qui ont été renforcées, qui ont été identifiées comme étant des structures gay-friendly, disons ça comme ça, et dans lesquelles, effectivement, les homosexuels peuvent aller se faire offrir un certain nombre de services, etc.
Merci Camille Noma.
Merci.
Cette stigmatisation des homosexuels, c'est malheureusement une constante hein, sur tout le continent, ce qui constitue un frein à l'accès aux soins et une atteinte aux droits, comme le rappelle cet activiste burundais que vous aviez rencontré, Igor, en décembre 2018.
Quand ils ont des IST, ils doivent dire au médecin tout. Et quand ils disent qu'ils ont eu cet IST-là parce qu'ils ont...
Donc une infection sexuellement transmissible.
Pardon. Parce que ce sont des MSM. Il y a automatiquement discrimination. On leur refuse les soins.
Les médecins leur refusent les soins?
Oui, c'est fréquent.
Mais un médecin est tenu au secret professionnel, normalement.
Quand il s'agit des MSM, on dirait que ce n'est plus le cas. La plupart du temps, c'est dans le quartier. Ils se connaissent. Bonjour, moi, c'est petit. Ils vont dire à leurs parents, voilà, ton fils est venu parce qu'il avait une infection sexuellement transmissible, parce qu'il a couché avec un autre homme. Et c'est grave pour la personne quand la famille te rejette. Même, il y a des enfants qui abandonnent les écoles. Il y a même des personnes qu'on refuse le boulot parce que ce sont des MSM.
Mais alors, comment faire pour améliorer tout ça, justement, cette situation?
On essaie de sensibiliser les professionnels de santé pour leur dire, voilà... Même si vous avez vos préjugés, même si vous avez ce que vous avez par rapport à la culture burundaise, il faut les soigner parce que ce sont vos enfants, ce sont vos cousins, vos neveux, voilà.
Et est-ce que la situation a évolué ces dernières années quand même? Vous vous sentez un mieux ou est-ce que les mentalités restent toujours étriquées à ce niveau-là?
Je dirais que ça évolue par rapport à la famille, par rapport à la communauté en général, mais par rapport aux autorités. Et aussi par rapport à la police, c'est là où ça bloque. Parce que les autorités même et la police ne connaissent pas bien la loi. Parce que la loi en soi criminalise les pratiques. Mais quand une personne passe et qu'elle est un peu efféminée, on va dire, toi tu es MSM, toi tu es homosexuel, on va l'arrêter. Sans que la personne fasse rien. Donc c'est là où ça coince quand il s'agit des policiers. Ce sont des arrestations arbitraires.
Elles sont fréquentes ça?
Oui, c'est fréquent. Il y a même là maintenant que je vous parlais, il y a des personnes qui sont en prison.
Avec les professionnels du sexe et les homosexuels, les usagers de drogue font partie de ce que l'on appelle les populations clés, à savoir populations particulièrement vulnérables et stigmatisés. Alors pour comprendre les enjeux de l'accès aux soins des consommateurs de drogues injectables, tout de suite nous allons partir pour Dakar au Sénégal avec des extraits de l'un de vos autres reportages, la diffusion 2016 dans Priorité Santé.
Oui, vous le savez sans doute, hein, le Sénégal a été l'un des premiers pays d'Afrique à mettre en place un accès au traitement antirétroviraux pour les personnes infectées par le VIH via un programme public. C'était en 98, puis en 2003, le pays s'est engagé dans la dispensation gratuite des ARV et est ainsi devenu un modèle pour de nombreux États africains. Cette mobilisation a eu pour conséquence de maintenir une très faible prévalence de l'infection dans la population générale. Elle était de 0,7% en 2012 et certains se sont alors mis à espérer pouvoir atteindre le zéro nouvelle infection dans les années à venir. Un espoir vite remis en cause par une étude sur les populations à risque et notamment les usagers de drogues injectables qui avaient été complètement oubliés jusque-là. Cette enquête, UTSEN-ANRS, réalisée en 2011, révèle que les usagers de drogue sont en moyenne 7 fois plus exposés au VIH et 20 fois plus exposés au risque d'infection par l'hépatite C que la population générale. Des résultats qui ont mis en évidence la nécessité de créer un programme spécifique pour ces populations à risque. C'est ainsi qu'est né le CEPIAD, le centre de prise en charge intégrée des addictions au sein de l'hôpital de Fane à Dakar en 2014. Alors en plus d'un programme de réduction des risques avec distribution de seringues et de préservatifs, le centre a également développer un programme de substitution à l'héroïne grâce à la méthadone. Aujourd'hui, 160 anciens toxicomanes suivent ce traitement au CEPIAD.
Héroïne, crack, cocaïne, à sniffer ou à s'injecter, on trouve toutes sortes de drogues à Dakar, comme d'ailleurs dans de nombreuses villes du monde. Selon les estimations officielles, il serait très précisément 1324 consommateurs de drogues injectables dans la capitale sénégalaise, chiffre qui est très certainement en dessous de la réalité, car tous les toxicomanes ne sont pas connus, comptabilisés, et cette statistique ne prend pas en compte notamment les consommateurs étrangers, qu'ils soient européens ou libanais. Alors chaque jour, des anciens usagers sillonnent les rues de la capitale pour apporter seringues propres et préservatifs aux consommateurs. Igor Strauss, vous avez suivi Eva, elle travaille au CEPIAD.
Là, on est dans la zone de la Médina, où il y a une forte population de CDI. Hein?
Donc d'injecteurs de drogue.
On est dans un... dans une piole où les usagers ont l'habitude de prendre leur dose et puis de s'injecter, ou voilà, de se rencontrer pour prendre leur dose, quoi.
On est chez des gens ici?
Ouais, c'est chez des gens. Mais bon, ils ont des enfants qui sont consommateurs de drogue, hein. Et puis il y a des gens qui vont se payer leur dose ailleurs et viennent consommer ici.
Donc là, on est rentré dans une toute petite salle.
Ouais.
Partout, il y a des bougies confondues, il y a des mégots, il y a plein de seringues usagées, il y a tout le kit pour faire le shoot.
Ouais.
Ça sert à quoi, ça ?
Une cupule pour préparer la seringue avec le coton. Hein ? Des fois, on mélange le produit, l'héroïne, avec des produits, des substances. Donc, il faut les filtrer pour pouvoir s'injecter, pour faire une injection à moindre risque. Tout ce que tu vois là, c'est de la merde. Et puis, il y a le coton qui est là.
D'accord. En tout cas, il y a plein de seringues. Donc ça, c'est sûr que c'est des gens... Ça, c'est vous qui les avez apportées, les seringues ?
Ouais, pour la réduction des risques. Nous passons pour distribuer les seringues. Et après, on les récupère. Normalement, il devait le mettre ici dans la bouteille. Mais il ne l'a pas fait. Bon, on va les récupérer, les mettre dans notre bouteille pour les emporter avec nous et laisser d'autres seringues stérilisées ici.
Ça, là, ah oui, bon, on voit le kit, donc il y a encore des seringues neuves.
Ouais, mais on va laisser parce que il y en a plusieurs qui passent pour s'injecter ici.
Paco, Paco, Loni.
Combien tu as laissé?
Presque
40. Est-ce que tu as compté? Oui, je le compte. 40 cupules. Je vais amener 40 cupules.
Ouais, tu amènes 40 cupules aussi.
Ok.
Ouais, tu amènes le compte rendu.
Et vous, personnellement, en tant que travailleur de rue, comment vous avez connu l'endroit? Comment vous êtes venu ici?
Comment je suis venu ici? Parce que je connais. C'est mon métier, c'est mon rôle. Voilà.
Mais quand vous étiez une consommatrice vous-même, vous êtes déjà venu ici?
Oui, je suis déjà venu ici.
Ah, c'est pour ça que vous connaissez d'avant quand vous étiez consommatrice.
Ouais, ouais.
Emma. C'est
40
par 5.
Par 5. Hein?
C'est par 5 rangées, quoi.
Ah, vous
maintenant, 10.
10.
20, 30,
40.
40, c'est bon.
Ok, c'est bon.
Ouais.
Vous, c'est Paco?
Ouais, c'est moi, c'est Paco.
Paco, vous, ça fait combien de temps que vous faites ce travail dans la rue là pour auprès des toxicomanes?
Presque 2 ans comme ça là. Parce que moi, j'étais toxicomane. J'ai fait 20 ans, presque 2 semaines comme ça. Mais avant, moi, c'était tellement dur. C'était tellement dur dans la rue. Oui, oui.
Parce qu'avant, il n'y avait pas d'aide, quoi.
Non, il n'y avait pas d'aide. C'était tellement dur. Dur même, oui. Tellement dur. Il y a beaucoup de gens qui sont passés. Hein. Des copains qui ont dormi comme ça. Même là, ils ont passé. Ils sont morts. Beaucoup même. Même là-bas, on a un tableau de souvenirs. Il y a beaucoup de gars qui sont passés. On a écrit leur nom avec la date du décès. Tout ça. Hein. Et...
Ils sont décédés de quoi? Overdose?
Overdose, oui, overdose, maladie, des trucs comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui avaient la maladie, l'hépatique, des trucs comme ça. Oui, parce qu'à l'époque, tu vois, il n'y avait pas ça, quoi. Il n'y avait pas les seringues, il n'y avait pas les cupules. Tu vois, un gars qui a une seringue, hein, il va se piquer plusieurs fois. Même quand un gars n'a pas de seringue, comme la nuit, les femmes sont fermées, il vient, il l'emponte. Il dit que tu me prêtes ton pompe, oui, j'ai passé un coup, je vais te donner un peu. Oui, après tu le passes. Quand tu as un malade comme ça, tu peux le transmettre, quoi. Oui. Maintenant, c'est la réduction des risques, quoi. Actuellement, Dieu merci, quoi. On essaie de rattraper ce qu'on avait perdu, quoi. Oui, on essaie de le rattraper, voilà.
Mets la bouteille vide. On va prendre ça, là.
Alors, on va prendre la bouteille vide.
Prends la bouteille vide. C'est là, c'est là.
Récupération. Oui. Oui, attends, j'arrive.
Là, vous mettez les seringues une à une dans la bouteille.
Une à une, précieusement, quoi. Parce que même aujourd'hui, je voulais amener les gants.
Ah ouais, faut que ça se sans gants, hein. C'est dangereux quand même.
Oui, c'est dangereux, c'est dangereux. Et...
Oh. Paco, vous êtes séropositif ou pas?
Non, je suis bien portant. Pas d'hépatique, pas de sida, pas de tuberculose, rien.
Attention, parce qu'il y a deux seringues qui se sont plantées dans la bouteille.
Tu as vu. J'ai fait tous les tests négatifs.
Bah, tant mieux.
Mmh. Bah, tant mieux. Tant mieux.
Donc Paco, qu'est-ce qu'il y a?
Le gars là, il était fâché. Oui, il a dit que pourquoi on vient chez lui.
Mais lui, il est suivi au centre de fans ou pas, non?
Oui, il est dans le toxico.
Il est sous méthadone, il est sous quoi?
Il est sous méthadone.
Et c'est chez lui que les gens ils viennent prendre de la... s'injecter, quoi.
Ouais, s'injecter, quoi. Et en même temps, il y a des gars qui viennent vendre le produit dans la maison. Vous voyez que les gars là, deux gars assis devant la porte là.
C'était les dealers devant.
C'est pour cela que je t'ai dit qu'on rentre dans la voiture. Et, mais il y a encore d'autres endroits qu'on peut partir, quoi. C'est pas ici seulement.
C'est il y a un patient là, je vais l'appeler, s'il veut parler, s'il veut discuter avec vous.
Moi j'attends ici.
On va voir après.
Bonjour, c'est Igor, c'est Sidi, c'est Marie-Christine.
Marie-Christine, ça va?
Ça va bien Sidi?
Ça va un peu.
Sidi, vous avez quel âge?
34 ans.
Alors comment ça se fait que vous connaissez Eva?
Non, ça fait longtemps quoi.
Ça fait longtemps qu'on se connaît, je sais qu'il est dans le circuit, moi je me suis retirée depuis. Maintenant, il va arrêter à fumer et prendre la méthadone parce qu'il est vraiment fatigué.
Donc vous fumez l'héroïne, c'est ça?
Oui.
Vous fumez beaucoup?
Beaucoup, oui.
Combien de grammes?
5 sardours.
Il dit qu'il a fumé 5 paquets d'héroïne et 5 cailloux.
De cocaïne.
Ouais.
Ça c'est par jour?
Par jour, oui. Il dit que hier seulement.
Ouais. Alors du coup, c'est tout votre argent qui y passe?
Bon, il y a pas de cocaïne. Là, il y a pas de téléphone. Le meilleur, la radio, il y a pas de téléphone. Téléphone, il y a pas de
tout ça là. Tout ça, il a tout vendu.
Vous avez une femme, vous avez des enfants?
Oui. J'ai une femme, j'avais 4 gosses.
4 enfants? Et les enfants, ils vont bien, ils vont à l'école, ouais, ou c'est difficile de les élever?
Sa femme, des fois, a besoin que lui lui donne de l'argent, mais c'est un problème parce qu'il dépense tout en drogue.
Merci beaucoup.
Demain, c'est moi qui serai là-bas. Allez. Non. Ouais, demain. C'est demain.
Et donc ça, c'est les maraudes que vous faites tous les jours,
Oui, oui, on le fait tous les jours. Des fois ici, c'est, on vient à la Médina, des fois c'est Grand Dakar, des fois c'est Wakam. Mais chaque jour, il y a une équipe qui part. Un binôme.
Là, le binôme, c'est Eva et Paco.
Oui.
Il n'existe pas de traitement de substitution pour la cocaïne et le crack. En revanche, certains consommateurs d'héroïne bénéficient donc de la méthadone en sirop qu'ils viennent chercher chaque matin au Sepiad.
Je m'appelle Loulou, ciao, on m'appelle souvent Loulou. Je suis le régulateur de l'entrée du Sepiad. Mon travail consiste à faciliter les gars qui viennent pour prendre leurs médicaments, à savoir la méthadone.
Alors vous, en tant que connaisseur, qu'est-ce que ça a changé l'arrivée de la méthadone ici au Sénégal par rapport à avant?
Beaucoup de choses. C'est quelque chose de génial parce que ceux qui sont inclus ont retrouvé le goût de la vie, l'hygiène de vie, la sérénité, et ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Peu rentrent et ressortent après. Il y en a peu, on les compte. Hein. Ça arrive quand même, mais on les compte. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose de formidable.
Vous êtes sous méthadone, personnellement?
Oui.
Depuis combien de temps?
2 ans.
Vous avez l'air en pleine forme?
Ben oui, puisque je fais que ça, et puis manger, dormir, travailler surtout, retrouver, enlever tous les stress de la vie, retrouver ma famille, que j'aime beaucoup, qui me retrouve aussi, parce que c'était différent avant. En fait, ce n'est que reprendre ce qu'on avait laissé, quoi.
Quelle est la plus belle chose qui vous soit arrivée depuis que vous avez abandonné la drogue pour la méthadone?
Ma tête. Quand je me réveille le matin, j'ai plus ce cœur qui bondit. Oh, où je vais trouver ma drogue? Comment je vais faire? Où je vais trouver de l'argent? C'est des questions comme ça qui font que vous vous réveillez sans le vouloir. Vous avez envie de refermer les yeux tout de suite. Franchement, maintenant vous vous réveillez, vous entendez les chants des oiseaux, vous prenez un grand petit déjeuner, vous parlez avec votre famille, mais il n'y a rien de tel. C'est le bonheur. Comme je vous ai dit, c'est le bonheur.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Alors, Igor, la méthadone, c'est la solution? Est-ce que ça fonctionne?
Oui, c'est ce que disent tous les anciens toxicomanes. D'ailleurs, la liste des consommateurs qui souhaitent intégrer ce programme est encore longue, mais le Sepiad ne peut pas tous les intégrer pour l'instant. Il y a 3 nouveaux patients maximum par semaine. Les femmes, les injecteurs et les patients séropositifs sont pris en priorité.
Écoutez Priorité Santé sur RFI alors que sont annoncés les résultats de la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial dans la ville de Lyon. Nous vous proposons ces illustrations de terrain, tuberculose, VIH-Sida et à présent, lutte contre le paludisme. Nous partons en Birmanie avec un programme d'élimination lancé à la frontière avec la Thaïlande. Reportage tourné par Igor Strauss en avril 2019.
Bonjour.
Bonjour. Alors je suis Gilles Delmas, je suis épidémiologiste au départ et je dirige ici le programme d'élimination de la malaria dans l'état Karen à la frontière de la Birmanie. On a démarré il y a 5 ans maintenant ce projet dans 4 townships de l'état Karen, ce qui représente une population un petit peu en dessous de 400 000 personnes. En gros, notre hypothèse était de dire que si on arrivait à éliminer le parasite circulant chez une majorité de personnes qui transportent le parasite, on arriverait à éliminer la maladie. On parle de Plasmodium falciparum ici, donc de la malaria responsable de neuropaludisme, donc de paludisme dont on peut décéder. Le problème de cette maladie, c'est qu'un certain nombre des personnes qui sont malades, on va les traiter, et une fois qu'ils ont été traités, ils ne sont plus contagieux, ils ne vont plus retransmettre à un moustique le parasite. Alors ça, c'est la partie facile, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais il y a une partie immergée de l'iceberg qui est très importante. On considère qu'il y a à peu près 70 à 80% des gens qui hébergent le parasite, qui l'hébergent de façon silencieuse. Ils ne vont pas déclencher une maladie, mais par contre, ils ont le parasite en eux. S'ils sont piqués par un moustique, le moustique va pomper ce parasite et va être capable d'infester d'autres personnes. Donc le cycle existe toujours. Donc l'enjeu est de repérer là où sont les concentrations de porteurs du parasite et de traiter l'ensemble de la population dans ces endroits-là. On a fait des coups de sonde, en fait. On a sélectionné un ensemble de villages, à peu près on a sélectionné 300, dans lesquels on a fait des prélèvements sanguins à l'ensemble volontaire, évidemment, de la population, et dans lesquels, en biologie moléculaire, donc avec des techniques de laboratoire un petit peu fines, on a été rechercher si ces gens-là portaient le parasite ou pas. Et dans un certain nombre d'entre eux, qu'on a appelé des hotspots, des points chauds un petit peu, on a des populations dans lesquelles 30, 40, 50% de la population était porteuse du parasite. Et dans ces villages-là, on a fait ce qu'on appelle des traitements de masse, c'est-à-dire qu'on a traité l'ensemble de la population. Mais il faut savoir que l'administration de masse, elle ne fonctionne que comme un booster un petit peu, que comme un amplificateur d'un réseau qui doit être mis en place, alors soit préalablement, soit au moment des traitements de masse, et qui propose un diagnostic et un traitement précoce de l'ensemble des gens qui sont éventuellement malades. Et donc on a monté ces postes de malaria dans ces 1200 et quelques villages, dans lesquels le malaria post worker,
un agent dédié au paludisme.
Pour l'instant, en tous les cas, en gros, les gens savent que s'ils ont de la fièvre, il faut qu'ils consultent l'un de ces post-malaria dans les 24 heures qui suivent le début de leur fièvre. S'ils consultent dans les 24 heures, et on rend possible la consultation en mettant le malaria post aussi près que possible d'eux, le malaria post, c'est le voisin. Il est très accessible, il n'est pas à 3 heures de route ou à 2 heures de marche, il est à côté. Et il a constamment du matériel pour tester, pour traiter. Et à partir de là, on vide progressivement le réservoir. Sur ce projet qu'on a monté depuis 4 ans, sur 4 townships, on a maintenant... Trois de ces quatre townships montrent une transmission du palu à falciparum qui est en dessous du détectable. La définition de l'OMS pour parler d'état d'élimination demande de vérifier une incidence, donc un nombre de cas pour 1000 personnes et par an, qui est inférieur à 1. Et sur deux des trois, on est à 0. Et sur le troisième de ces trois-là, on est à moins de 1, c'est-à-dire qu'on a eu un ou deux cas en tout l'année dernière et l'année d'avant. Maintenant, nous, notre projet, il est plus là pour faire un vide sanitaire, un petit peu un coupe-feu, pour bloquer l'avancée des résistances aux dérivés de l'artémisinine. On s'est rendu compte que il y a un foyer de résistance qui a démarré déjà depuis quelques années au niveau du Cambodge et qui a tendance à s'élargir. Et il faut surtout faire tout faire pour que l'avancée de ces résistances n'aille pas plus vers l'ouest. L'entrée en Birmanie, ça voudrait dire derrière c'est le Bangladesh, l'Inde et après c'est l'Afrique en fait. Donc l'objectif il est vraiment ici de faire un pare-feu pour casser un petit peu la dynamique de ces résistances. Donc il faut qu'on termine cette élimination dans les temps avant que le parasite ne devienne résistant parce qu'il n'y a pas grand chose dans le tuyau derrière, on n'a pas d'eau.
Il n'y a rien du tout même.
Le jour où les combinaisons à base d'artémisinine ne marcheront plus, on est tout nu.
Merci à Sébastien Farcier, merci à vous Igor Strauss, merci beaucoup.
À bientôt Caroline.
Pour tous ces extraits de reportages réalisés à travers le monde, mis en ondes par Didier Bleu, demain nous serons toujours à Lyon pour la dernière de nos trois émissions consacrées à ce rendez-vous donné par le Fonds mondial. La France qui accueille cette conférence de reconstitution, les résultats et bien sûr les commentaires après l'annonce des promesses de financement. L'engagement est-il à la hauteur de l'enjeu sanitaire pour la planète? On vous donne rendez-vous demain avec nos invités et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.